pour interroger le lien actuel entre culture publique, puisque c'est mon champ d'investigation, et propagande. Évidemment, il faut les recontextualiser, les resituer dans notre contexte néolibéral. Dans le cadre des politiques culturelles, cela revient bien souvent à analyser les nouvelles formes d'académisme, donc en fait de savoir, on va dire, verticaux, officiels, mais qui se dissimulent la plupart du temps, et c'est là toute la complexité de ce jeu de miroir. Ces nouvelles formes d'académisme se dissimulent la plupart du temps derrière un rejet de l'académisme, derrière des discours anti-académiques, derrière des incitations à la déviance, à la transgression et à la histoire des politiques culturelles que j'ai aussi retracées. Ça peut aussi faire l'objet d'un débat, parce que je connais bien l'histoire, non seulement de ce terme, mais de son implémentation dans les politiques culturelles, la question dite de la diversité. Alors, par exemple, sur la question de la transgression, il y a le célèbre article de Sokal et Bricmont, qui, eux, alors dans un domaine qui est différent, qui est celui de la science, reprennent cette espèce d'académisme qui est aussi scientifique, puisque le titre canular de leur article, c'est « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». Et donc cet article de Sokal, dont on sait que c'est une imposture, c'est un canular, on retrouve des items qui sont tout à fait caractéristiques de cette espèce de nouvel académisme anticulturel. La transgression, c'est des items que je pourrais tout à fait reprendre et mettre dans le champ sémantique des discours que j'étudie. La transgression, la transformation et le quantique aussi, puisqu'il y a toute une série d'expérimentations, dont certaines, bien entendu, très intéressantes. Je ne porte pas là de point de vue axiologique sur le théâtre quantique. Quand est-ce qu'on peut parler de nouvelles formes d'académisme? C'est à partir de quel moment ces œuvres deviennent académiques et donc peuvent se rapprocher d'une forme de propagande? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais dans un premier temps, je me contente de constater donc qu'aujourd'hui, les nouvelles formes d'académisme se dissimulent la plupart du temps derrière un rejet de l'académisme et des discours anti-académiques. Alors, je vais prendre pour exemple un exemple de théâtre récent, le dernier prix de l'Académie française en dramaturgie, l'écriture théâtrale, a été attribué à un auteur qui, en fait, n'écrit pas véritablement des pièces de théâtre, ou en tout cas les écrit exclusivement à partir de verbatim, c'est-à-dire c'est de la retranscription, pour le dire très trivialement, de micro-trottoir. Donc on assiste ici, effectivement, il n'y a plus de transformation littéraire, et il y a une totale désublimation, autorité du réel, désublimation de l'œuvre artistique. Et à mes yeux, donc, c'est un exemple possible d'académisation anticulturelle, de cette espèce de nouvel académisme qui passe par des assertions et des gestes anti-académiques. J'ai cité parmi ces injonctions anti-académiques et donc académiques la diversité qui est selon moi donc à mettre entre parenthèses, parce qu'en tant que discours bien entendu, non pas en tant que valeur, puisqu'en tant que valeur c'est quelque chose auquel on peut adhérer, mais en tant que discours c'est quelque chose qui va recevoir des définitions extrêmement précises et questionnables. La diversité est sans doute la clé de voûte de ce dispositif global d'injonction plus ou moins tacite qui prennent place dans un contexte global de transition de notre culture de l'intérêt général à une culture du multiculturalisme, d'une conception transcendante, ainsi qu'on l'exprime en droit public, l'intérêt général étant un principe transcendant, à une conception anglo-saxonne plus agrégative, horizontale. Et là où va se poser un problème, c'est que cette culture plus agrégative et horizontale, elle est aussi, elle n'est pas bien entendu que cela, hein, mais elle est aussi le lieu de développement, alors, de ce que Sokal et Brittemont qualifient de relativisme cognitif. Les politiques culturelles françaises, et encore une fois, on peut revenir avec vous si vous voulez redétailler ces politiques culturelles de la diversité, sont aujourd'hui dépositaires d'une idéologie non seulement mixte, mais tout à fait paradoxale, à la fois néolibérale, horizontalité, différentialisme, diversité, voire parfois relativisme, mais qui reste héritière de cette infrastructure verticale dont la clé de voûte reste cette idée d'intérêt général culturel, désormais lui-même mis en concurrence avec la notion encore mal définie de droit culturel, qui n'est plus axé en tout cas sur l'intérêt collectif, c'est ce qu'on peut dire en tout cas de la notion de droit culturel, par exemple dans la déclaration de Fribourg, qui n'est plus axé sur l'intérêt collectif général, mais sur les droits subjectifs ou droits créances. C'est encore formellement au nom de l'intérêt général qu'est cependant abondée l'enveloppe création dont vous parlez du ministère de la Culture, et plus généralement en son nom, que les artistes entendent agir, ce qui peut prendre la forme de plusieurs topoi argumentatifs dans le secteur culturel. Par exemple, on repère assez fréquemment la dénonciation, je cite, de l'entre-soi culturel chez les artistes, qui reprend lui-même un leitmotiv plus ancien qui est la lutte contre le non-public, la recherche de mixité des publics. Ce topos étant parfois lui-même de rejet de l'entre-soi culturel, étant, c'est ça qui est paradoxal, lui-même parfois suspect d'être un marqueur de l'entre-soi culturel. La revendication, on trouve aussi d'un théâtre, je cite, un théâtre situé, chez par exemple Christophe Blandin-Stournel, Hortense Archambault, l'ancienne co-directrice du Festival d'Avignon, un théâtre proche des préoccupations du public, qui va valoriser les esthétiques amateurs, donc du panel, de l'échantillonnage, et globalement toutes les formes médiationnelles qui participent de ce que la sociologue Nathalie Hennig a qualifié, terme un peu technique, vous m'en excuserez, d'allographisation de l'art contemporain, en 2014, dans le paradigme de l'art contemporain. Alors cette allographisation de l'art contemporain, c'est une forme d'émiettement de l'œuvre par accroissement des dispositifs de communication, hein, je me rapproche à petits pas de la question de la propagande, autour de cette dernière. Cette ultime étape allographisée de la démocratisation culturelle appelée des vœux de Jack Lang, qui est la figure politique emblématique de ce processus de désartification, hein, autre terme important emprunté à Adorno, correspond à une sorte de dilution progressive de l'art dans la médiation et dans la communication, qui d'ailleurs est la plupart du temps déplorée par les artistes eux-mêmes. Ce double mouvement d'extrême customisation de l'œuvre d'art, Frédéric Mitterrand parlait de culture pour chacun, et de perpétuation de la légitimation par l'intérêt général, produit bien entendu des injonctions paradoxales que l'art tentera de résoudre par différents paralogismes. Alors soit on peut parler de paralogisme quand on considère, ce qui tend à être mon cas, qui applique, j'ai tendance à appliquer des cadres cartésiens, soit alors en termes adorniens, on parlera d'intensification des contradictions, en prétendant donc que l'extrême singulier serait dépositaire d'un extrême universel. Alors ce discours-là, l'extrême singulier dépositaire d'un extrême universel, est tout à fait caractéristique et assez omniprésent. C'est-à-dire que l'identité mise en avant dans une œuvre d'art, la question de identitaire mise en avant par une œuvre d'art, identité arrêtée et revendiquée, serait l'endroit d'une infinie ouverture sur autrui. Alors on peut prendre par exemple l'exemple du dernier festival d'Avignon sur le thème transgenre, par Olivier Py, qui pose le transgenre en universel. Alors, cette équation, l'extrême singulier équivaut à l'extrême universel. C'est une équation aussi que défend, par exemple, Jacques Rancière. Alors, cette équation, pour ma part, je la trouve, en tant qu'opération de pensée, je la trouve assez insatisfaisante. Alors, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'ailleurs une des raisons mises en avant par Sokal et Bricmont, hein, ce n'est pas bien sûr les seules références en la matière, mais il se trouve qu'ils en parlent, c'est la mise en concurrence assez dualiste de l'abstraction et de l'abstrait et du concret et de la théorie et des faits. Il y a un dualisme, ça présuppose un dualisme de la théorie et des faits et du concret et de l'abstrait. Hein, je cite Sokal et Bricmont, ça présuppose la plupart du temps la sous-détermination de la théorie par les faits. Alors, d'où autorité du réel dans l'art contemporain. Et il se trouve, alors j'ai trouvé dans l'article Canular, je vous lis un extrait de l'article Canular que l'on peut transposer dans les discours artistiques. Donc, évidemment, c'est à prendre de manière ironique, hein, au second degré. Le contenu de toute science est profondément conditionné par le langage dans lequel ces discours sont formulés. Et la science physique occidentale dominante a, depuis Galilée, été formulée dans le langage mathématique. Mais les mathématiques de qui, hein? Voilà. Mais les mathématiques de qui? Alors, quand cette auto-légitimation par le concret, par la singularité et par les faits prend trop d'importance, une importance que l'on pourrait juger déraisonnable, cela aboutit à ce que j'appelle de manière un peu provocatrice dans mon livre le entanquisme, hein, c'est-à-dire que toute forme de légitimité d'un discours, alors ce qui est ici scientifique, mais je peux facilement le transposer dans les discours artistiques. Le contenu d'une œuvre dépend, c'est un retour à l'auteur, si vous voulez, à l'autorialité, va dépendre de l'identité de son auteur. Et en général, aujourd'hui, dans les polémiques d'appropriation culturelle, ce sont les identités d'ordre ethno-biologique qui sont mises en avant. Donc, retour à l'auteur et d'une certaine manière aussi retour du biologique, à mon sens. Donc cette équation extrême singulier, extrême universel repose aussi sur autre raison peut-être de la mettre en question, sur une conception métonymique et monadologique du collectif. Je m'explique. Chaque individu est dès lors conçu comme un microcosme d'identité plurielle en perpétuelle autopoïèse, ou pour le dire à l'anglo-saxonne « self-constructing », une sorte de micro-société à échelle individuelle, et donc l'individu, hein, qui hypostasie bien sûr notre société néolibérale, deviendrait lui-même la métonymie la collectivité dans son ensemble. Chaque singularité serait à la fois incommensurable, terme raillé par Sokal et Bricmont, je l'ai découvert récemment, et très très récurrent dans les, enfin, vraiment leitmotiv des discours artistiques. Donc chaque singularité serait à la fois incommensurable par rapport aux autres, mais en même temps identique aux autres, du fait même de cette incommensurabilité. On retrouve ici une équation libérale, et là c'est un élément que je trouve fort bien analysé dans la critique lyotardienne de la postmodernité, celle de l'interchangeabilité pure et parfaite des identités. L'interpolation du singulier concret et de l'universel abstrait, qui n'est selon moi qu'une sorte de cheville rhétorique, se retrouve dans la plupart des théorisations post-marxistes. Alors dans le post-marxisme, en ce moment je m'intéresse beaucoup à la question des idéologies post-marxistes dans le monde artistique. Je mets énormément de choses allant des gender studies au réalisme spéculatif, en passant par les savoirs situés de Donna Haraway. Contrairement au marxisme originel, ces pensées sont, selon moi, non seulement solubles dans le capitalisme, mais elles en sont les alliés, les fers de lance, et dans le domaine culturel, artistique, intellectuel et spirituel, de possibles supports de propagande capitaliste, et cela du fait de leur capacité à capturer ou absorber les impulsions à l'émancipation. Hormis les situationnistes, qui selon moi, bon, c'est un des matériaux critiques que j'utilise très souvent, qui restent selon moi les plus virtuoses pour débusquer les systèmes de fausses oppositions, on peut aussi citer le Agamben de 2019, de Profanation, pour qui, je cite, « Cette capture et cette saisie par le capitalisme du moyen pur par excellence, c'est-à-dire du langage quand il est émancipé de ses fins communicatives, l'art, et qu'il se dispose aussi pour un nouvel usage, donc, est plus essentielle encore que la fonction de propagande, qui concerne le langage comme instrument tendu vers une fin. » Les dispositifs médiatiques ont pour objet précis de neutraliser le potentiel profanateur du langage comme moyen pur, l'art, et d'empêcher qu'il libère la possibilité d'un nouvel usage, d'une nouvelle expérience de la parole. Bon, là, en fait, on se situe au cœur véritablement de ma critique sur ces histoires de politiquement correct, d'idéologie, etc. L'une des idéologies que l'on pourrait critiquer, post-marxiste, que l'on pourrait critiquer et qui connaît une forme de recrudescence dans les programmations et les discours artistiques, me semble être, alors c'est particulièrement visible, mais à l'œil nu, hein, dans les programmations, les idéologies intersectionnelles qui ont un soubassement scientifique, alors assez intéressant, qui est de type cybernétique. On pourrait développer cette question d'intersectionnalité cybernétique. Alors, en tout cas, je vous propose de développer un peu, avant d'en arriver à l'autorité du réel, cette question de l'intersectionnalité dans les politiques culturelles de la diversité. Les différents post-marxismes relèvent d'une torsion idéologique, puisque la médiation entre l'universel et le singulier doit être, dans le marxisme originel, hein, je mets des guillemets, je sais que c'est schématique et une simplification, garantie par la conscience de classe, que ces nouvelles cultures matérielles, à la fois matérialistes et identitaires, rendent précisément impossible par atomisation et massification, hein, la massification étant le résultat d'une agrégation d'atomes. Foncièrement individualiste, l'intersectionnalité, par exemple, fait figure d'idéologie virale qui procède par propagation. Et alors, on peut reprendre l'expression russe d'agitprop, agitation propagande. Le volet propre n'était pas à considérer comme quelque chose de péjoratif, hein. Il concernait la diffusion des savoirs, y compris non idéologiques, donc ça pouvait être des savoirs tout à fait objectifs, hein, mais individu par individu, hein, c'est-à-dire la conquête de l'individu, tandis que le volet agitation concernait plus en quelque sorte mon domaine d'étude, c'est-à-dire les effets spectaculaires destinés aux masses. La configuration sémiotique et cybernétique de l'intersectionnalité se trouve, à mon sens, très bien adapté à cette stratégie propre. Hein. Alors, pour illustrer ce côté cybernétique et viral de l'intersectionnalité, vous pouvez consulter les nombreux graphiques qui circulent de manière également virale sur le web et qui fournissent des réponses automatisées aux différentes situations d'énonciation. Situations supposées concrètes, mais qui sont en fait, du fait de ce dispositif cybernétique, complètement préprogrammées et abstraites, hein, et préparamétrées. Alors donc, outre cette forme destinée à la propagation, et cela en grande partie par la programmation linguistique, l'intersectionnalité est un imaginaire postmoderne. Et alors là, c'est une des questions voilà, que j'ai trouvé intéressante à creuser grâce à l'invitation d'Elsa, dans le sens où le pro de propagande ne pose plus véritablement question. Tout contenu propositionnel, positif, semble avoir disparu dans les revendications propagées, hein, qui sont et dans les formes artistiques qui en sont tirées, qui sont, je vous donnerai quelques exemples, j'ai déjà donné l'exemple du micro-trottoir, considérablement désublimée et donc répétitive par rapport à un réel qu'elles entendent redoubler. Ce continu propositionnel positif a disparu dans ce qui est propagé, hormis une exigence de visibilité. Cette absence de pensée sociale et théorique est assez révélatrice, serait assez révélatrice de la reconfiguration postmoderne du propagandisme. Cette dernière favorisant les discours anti, l'anti-académisme comme académisme, issu de la déconstruction, qui à son tour produit une prédominance de la négativité, et derrière cette négativité, une construction, une reconstruction d'identité originelle, naturelle, mais de synthèse. C'est ce que dit très bien Nathalie Hennig, c'est-à-dire qu'au bout de la déconstruction, déjà il y a le paradoxe qu'on ne déconstruit jamais la déconstruction, et au bout du paradoxe de la déconstruction, on arrive la plupart du temps à des valeurs, nous dit Nathalie Hennig, qui sont profondément naturalistes et naturalisées. À ce titre, l'idéologie, mais que l'on pourrait tout à fait aussi qualifier de mode, parce que il y a quelque chose de très branché là-dedans, de l'intersectionnalité, est à la fois un produit et un facteur de propagation de cette idéologie individualiste, horizontaliste et capitaliste du néolibéralisme. Chaque individu, une petite somme d'identité, un petit capital d'identité, un petit cumul de prédicats. Il suffit de retourner aux méditations. Il suffit, c'est quand même une entreprise assez vertigineuse, mais bon, de Descartes qui décrit que la seule entité qui capitalise en quelque sorte tous les prédicats, c'est Dieu. C'est Dieu qui a toutes les qualités. Bon, moi je vois aussi derrière on pourrait aussi analyser ça plutôt à travers le filtre lacanien, l'intersectionnalité, c'est vouloir cumuler tous les prédicats et être en quelque sorte le nom du Père. Un petit capital d'identité, plus ou moins activable et jetable. L'influence de cette mode dans les formes esthétiques contemporaines, visible dans à peu près toutes les programmations, qui désormais suivent le même protocole d'adresse à des publics parcellaires, on questionne de moins en moins la question humaine dans sa globalité, la condition humaine est de moins en moins prise en charge dans sa globalité par les œuvres d'art. Donc ce protocole d'adresse à des publics parcellaires illustre cette reconfiguration, alors de quoi ? De ce nouvel académisme, de cette propagande, je mets entre guillemets, en contexte néolibéral favorisant l'entrepreneuriat de soi, le self-branding. L'état culturel, qui a déjà été fortement vilipendé, est omniprésent par la subvention, mais n'exerce plus de fonction réelle de censeur. Alors il y aurait quelques contre-exemples, par exemple le préfet de la Sarthe qui a censuré récemment, 2018, un extrait du déjà polémique sur le concept du visage de Dieu de Romeo Castellucci. Il s'agissait d'un petit passage où des enfants, des amateurs recrutés sur place devaient tenir des grenades. Je pense factice quand même, mais désamorcer, mais devait tenir des grenades. Je n'ai pas enquêté sur ce sujet-là. En tout cas, c'est extrêmement rare que l'état culturel exerce une fonction de censeur et de censure. Il se contente de distribuer une manne financière en finançant la diversité, ce principe computationnel qui paradoxalement, n'exige aucune idéologie substantielle, mais au contraire se caractérise par une sorte d'absence de socle idéologique, de socle de valeur. C'est la raison donc pour laquelle je parle d'académisme anticulturel. Dans notre culture néolibérale, il faut ajouter cette question de la propagande revêt, je crois que vous en parlerez bien mieux après moi, l'allure plus flatteuse du lobbying, forme sous laquelle elle se trouve souvent valorisée. lobbying, militantisme, devenant d'ailleurs parfois des quasi synonymes. Plusieurs exemples à différentes échelles peuvent être fournis montrant la solubilité entre ces nouvelles formes de propagande de bord, dirait, diffuse, et cette espèce d'état post-moderne sans socle idéologique dont je viens un petit peu de faire le portrait, forme qui allie disparition apparente de la censure, libéralisme, et mutation des formes d'incitation et d'empêchement. D'où le problème posé par Kanata, est-ce que censure s'est adaptée ? Bon, il n'y a plus aucune verticalité, quoi. Alors, je vous donne quelques exemples qui vont avoir quelques liens avec la culture. En 1999, la fin de non-recevoir donnée au rapport Jacques Guyard, qui était président d'une commission d'enquête sur les dérives sectaires. Donc ce rapport a été, on va dire, mis... bon, il y a eu des pressions de différents lobbies, a été mis au placard, et marque, selon moi, l'ouverture d'une nouvelle séquence, celle d'une tolérance accrue à l'égard de ce type d'organisation, mais aussi d'une sorte de floutage notionnel, puisque le rapport, déjà, lui-même, parlait de dérives sectaires. Bon, il était déjà assez tamisé. Très récemment, cavalier législatif du 26 juin 2018, la désinscription des congrégations religieuses de la liste des lobbies, qui retire l'obligation pour les parlementaires de déclarer les financements émanant de lobbies religieux et qui autorise aussi ces derniers à se porter sur le marché comme investisseurs immobiliers. Vous voyez, il y a des floutages. La loi sur les fake news de 2018, selon moi, alors vu à travers ma lorgnette, hein, très significativement confiée à l'ancienne ministre de la Culture, membre d'une organisation qui était citée dans ce rapport Guyard parmi les dérives sectaires. Et redéfinissant de manière sous-jacente la culture comme un lieu qui édicterait le vrai et le faux. Hein, puisqu'à partir du moment où vous donnez, vous chargez... Moi, c'est ça qui m'a posé problème, si vous voulez, parce que le contenu de la loi me pose bien entendu problème, mais aussi c'est le fait de confier cette loi à une ministre de la culture, puisque la culture n'est pas censée être le lieu d'où s'édicte le vrai et le faux. À mon sens, c'est même plutôt l'endroit où l'on s'ingénie à brouiller et à redynamiser ces catégories. L'exemple de l'Observatoire de la liberté de création, qui est une succursale de la Ligue des droits de l'homme, dont les missions sont définies par la fondatrice. Donc la fondatrice est une avocate spécialisée en propriété intellectuelle et droit de la création artistique, Agnès Tricouard, qui a porté au jour une distinction entre liberté de création et liberté d'expression, et qui repose sur une conception ultralibérale. Alors, si l'on lit le cadre de... juridiction autonome, hein, puisque c'est un observatoire indépendant, hein, de l'Observatoire de la liberté de création, qui a un pouvoir certain, hein, dans le milieu artistique, ce sont des attendus complètement ultra-libéraux. Rejet de tout empiètement sur la liberté de création de l'artiste, c'est-à-dire que la liberté de création, c'est l'absolu de la liberté d'expression, et que l'artiste est dans une sorte d'extraterritorialité où il a une licence poétique accrue par rapport à la liberté d'expression. Dans les faits, cependant, on découvre, en regardant les orientations idéologiques de cet observatoire et les différents spectacles, œuvres pour lesquels cet observatoire prend parti, que tout ceci est à géométrie profondément variable, donc ultralibéralisme, et puis tout de même, il y a des mécanismes qui vont favoriser ou pas certains types d'œuvres, certains types de discours. Conditionnés par des critères idéologiques qui, quant à eux, bien entendu, le problème, c'est qu'ils sont tacites. Il faut analyser beaucoup les textes produits par cet observatoire pour voir apparaître effectivement la trame d'une orientation. Par exemple, l'attitude ne sera pas du tout la même face au travail d'Ariane Mnouchkine. Ça va être une attitude extrêmement dure, autoritaire, enfin oui, voilà, il y a tout un et tardive, parce que quand même l'Observatoire des libertés de création ne pouvait pas un petit peu ne pas prendre la défense d'Ariane Mnouchkine, mais ça s'est fait extrêmement tardivement, du bout des doigts et sur un mode très combinatoire aussi. Tandis que, par exemple, d'autres œuvres d'art, comme le rap de Médine ou une pièce de théâtre sur Mohamed Merah, vont faire l'objet d'une défense absolument immédiate, sans même lire le texte. Voilà. Le texte n'est pas lu, le texte n'est pas pris en compte. Parce que moi, le texte de la pièce « Moi, la mort », je l'aime comme vous êtes. Comme vous aimez la vie. Je l'ai décortiqué de manière extrêmement précise. Cet exemple permet de mettre en avant un nouveau paramètre des stratégies. Ici, ce que l'on pourrait appeler l'alibi de l'artification, qui permet de conférer à l'artiste une extraterritorialité et un supplément de liberté d'expression, donc cette liberté de création, quand ce n'est pas une forme d'impunité, hein, puisque avec l'Observatoire de la liberté de création, nous sommes dans le cas où l'on peut cautionner, et ils le font quasiment, hein, c'est presque pas à demi-mot, le fait de cautionner, par exemple, le rap de Nick Conrad, « Tuer les Blancs », qui relève de la fiction, donc de la pleine jouissance artistique de la liberté de création, et ne serait pas condamnable comme appel à la haine. On voit ici comment le trope juridique de l'artification répond à un contexte renouvelé par le libéralisme idéologique des sociétés postmodernes, lien entre propagation idéologique et judiciarisation, argument anti-censure qui, en contexte néolibéral, peut prendre la place de l'ancienne censure de manière diffuse comme outil de propagande idéologique. Ces différents éléments, libéralisme, diversité, intersectionnalité, artification, dessine de manière incomplète un premier cadre auquel il faudrait ajouter l'intensification du paradoxe de la double vie de l'artiste, je reprends l'expression à Norbert Elias, par laquelle il nomme la tension qui anime l'artiste entre conformisme et émancipation, qui, donc, dans un cadre de politique publique, a vu son rattachement institutionnel depuis les années 80, depuis Jack Lang, se renforcer en même temps que sa précarisation. Double mouvement, renforcement du lien institutionnel et renforcement de la précarisation, notamment au fil des réformes de l'intermittence, sujet que je connais aussi assez bien. Lieu d'expérimentation possible, c'est les thèses de Pierre-Michel Minger, de la future flexi-sécurité idéale du marché. Pour le dire très vite, la simultanéité entre baisse des financements, d'une part, mais aussi pulvérisation de ces dernières, pulvérisation des financements, et approche gestionnaire de l'intermittence crée un effet perfusion et conduisent à un renforcement global de l'allégeance des artistes sous la forme d'effets de réseau. Pour le dire très concrètement, pour parvenir à survivre dans un contexte où les nœuds d'interdépendance sont devenus si imbriqués et inextricables, la nécessité de ne pas faire de vagues se renforce. Il s'agira certes de cultiver des esthétiques insolentes, mais au fond inoffensives, par exemple avec cynisme, avec nihilisme, ou bien encore de produire un discours critique d'apparence radicale, par exemple une violente charge anticapitaliste, mais si caricatural qu'il sera en fait sans danger car sans prise sur la réalité, sans prise sur les consciences, et parfois pur jeu de reconnaissance des angoisses de l'élite, il faut bien le dire, pur jeu de reconnaissance, rendu impuissant par une radicalisation contre-productive, trop schématique pour toucher sa cible. À ce niveau, il apparaît très clairement, dans ce nouveau contexte, qu'il ne s'agit pas de propagande stricto sensu, pas de concertation, mais une agrégation de conformisme, ou pour le dire, cette expression que j'aime beaucoup d'Anna Arendt, à propos d'une pièce de Bertolt Brecht, c'est un exemple qu'elle développe, de solidarité négative. Car la dominante idéologique, qui résulte de ces multiples facteurs, engendre bien plus de postures anti que de postures pro. Il n'en demeure pas moins que la pénétrabilité des idéologies pro, alors il existe des idéologies pro qui sont des idéologies qui, par exemple, dans le cas de certaines associations, vont défendre des points de vue décoloniaux. La pénétrabilité des idéologies pro trouve dans ces formes nihilistes, cyniques ou relevant du dandysme épistémologique des alliés de choix, puisque ces dernières prédisposent une sorte de désarmement, pour citer Alan Bloom, critique, un monde inhibé ou en tout cas vidé de réactivité critique, la critique étant désormais une dimension suspecte d'appartenir au discours dominant. Comprendre les actuels phénomènes de propagation idéologique exige ainsi de commencer par prendre en considération ces phénomènes de mise en jachère. Alors, peut-être je vais vous donner un exemple très récent, celui d'un spectacle destiné au public périurbain de région parisienne en Seine-Saint-Denis, qui va être coproduit par des très gros établissements culturels, donc l'AMC 93, différents centres dramatiques nationaux, le ministère de la Culture, plusieurs grosses collectivités territoriales de Bretagne. C'est un spectacle inspiré de l'Amérique de Kafka, et la note d'intention diffusée sur le site, distribuée dans la feuille de salle, hein, tous ces supports étant importants, bien entendu, pour la diffusion, écrite par les metteurs en scène, annonce les éléments suivants. Je cite « Une plongée dans l'univers étrange, inquiétant et souvent énigmatique de Franz Kafka par les comédiens handicapés de l'atelier Catalyse. On y voit comment le désir d'intégration nous désarme et laisse la voie libre aux mécanismes de domination. Dévoiler cet assujettissement est un des projets de Kafka qui a lui-même profondément ressenti le sentiment d'exclusion. » À première vue, nous avons affaire à un spectacle qui associe de nombreux prédicats tout à fait récurrents de la culture publique, la lutte contre les discriminations, la visibilisation, la question du handicap, le tout adossé à un très grand patrimoine littéraire. Mais il y a une idéologie mise en avant et qui l'est de manière tout à fait explicite, exemplaire de cet effet de mise en jachère, par une sorte d'inversion, l'intégration est comparée à un assujettissement. Voilà, je vous redis le passage. On y voit comment le désir d'intégration nous désarme et laisse la voie libre aux mécanismes de domination. Donc, l'intégration est comparée à un assujettissement. On peut effectivement se demander dans quelle mesure comparer l'intégration à un assujettissement n'expose pas au risque d'accélération de ce même processus de désintégration, surtout lorsque l'on pense au public que vise explicitement la politique interne de l'AMC 93. Ce phénomène, que d'aucuns pourront juger pervers, présenter l'intégration comme une aliénation pour ensuite se plaindre de l'absence d'intégration, me semble parfaitement mis à jour par la comparaison entre deux pièces qui traitent toutes deux, à plus de 350 années de distance, de la question de la propagande de l'imposteur. Il s'agit de Tartuffe de Molière, 1669, et de Convulsion, 2018, du dramaturge guinéen Akimba, qui est à mon sens aujourd'hui l'un des plus grands dramaturges francophones au monde. Dans la pièce contemporaine, l'imposteur n'a plus besoin de convaincre. Il n'a même plus besoin de parler. Il ne parle plus. Tant Lotte, bien qu'effrayé par son intrusion, a inhibé tous ses mécanismes de défense et déroule un tapis rouge au propagandiste muet. Ce dernier n'a plus rien à activer, tant sa propagande est préassimilée par son hôte qui se confond en politesse. Alors c'est étordant, c'est une sorte de comédie rosse grinçante sur les luttes fratricides, hein, dont le propos peut à de multiples échos, non seulement Akimba traite aussi des conflits fratricides en Afrique subsaharienne, mais ça résonne aussi fortement dans nos contextes sociopolitiques occidentaux. Donc l'autre se confond en politesse, quand bien même l'intrus est ouvertement hostile. La pièce de Max Frisch, Monsieur Bonhomme et les incendiaires, mettait déjà à jour, aussi sous la forme de la comédie dramatique, ce type de mécanismes qui font le lit de la propagande, voire même la rendent superflue, tant la fiction de propagande est déjà dans le regard de l'autre. Pour finir cet exposé, j'en arrive à l'autorité du réel, j'aimerais proposer une ébauche de morphocritique de ces œuvres qui ont des visées idéologiques, plus ou moins tacites et diffuses. En travaillant donc sur les imaginaires démocratiques du théâtre contemporain et ses discours légitimants, j'ai pu repérer donc l'approfondissement de la crise de la mimésis, qui n'est pas chose nouvelle, à travers ce qu'Herbert Marcuse qualifiait de désublimation répressive dans Eros et Civilisation. Et je ne suis pas la seule à faire ce constat. Le prochain livre de mon collègue Olivier Neveu, spécialiste de théâtre politique, qui a toujours défendu le théâtre engagé et politique, son prochain ouvrage aux éditions de La Fabrique s'appelle « Contre le théâtre politique ». Il part du même diagnostic que moi, celui d'une instrumentalisation, d'une conception instrumentale excessive désormais du théâtre. L'autorité du réel est en effet invoquée pour légitimer le sous-texte politique d'une œuvre se donnant des objectifs idéologiques, et cette autorité du réel, on va pouvoir la résumer d'une manière très simple, ça au théâtre, ça existe, donc je vous le montre. Le problème posé par ce type d'esthétique extrêmement répandu, se revendiquant souvent du documentaire, relève en fait bien souvent du cadrage, voire du montage, de la dimension du « ça existe ». Un spectacle sur Mohamed Merah qui met totalement hors scène, et quand je m'y dis totalement, c'est l'antisémitisme du tueur. Un crime homophobe qui va se trouver dramatisé de manière racialisée, sans relier le meurtre homophobe à d'autres configurations. Un spectacle sur le féminisme islamique, tout ça sont des spectacles produits dans le circuit public. Donc je cite sur le féminisme islamique, qui omet de mentionner que les témoignages retranscrits sur scène et fortement mis en valeur par la comédienne proviennent d'une association d'obédience frériste extrêmement rigoriste, prenant le voile, il suffit d'aller sur le site internet, prenant le voilement des petites filles et chantant les louanges de l'imam Khomeini. Tous donc exemples cités d'une récente production théâtrale publique avec des ouvertures sur les scolaires, puisque la pièce sur le féminisme islamique était incluse dans un temps fort laïcité qui se destinait à un public de professeurs de l'enseignement secondaire. Et j'ai bien cherché sur le site, sur tous les supports de communication imaginables, le fait que cette association soit une association rigoriste, frériste, n'était mentionnée absolument nulle part. Et pourtant, le spectacle se présentait comme documentaire. L'autorité du réel revendiquée par ces œuvres est en fait formellement identique, pour sa approche morphocritique, à la viralité de n'importe quelle image médiatique. L'un des metteurs en scène, je peux citer par exemple Milora, travaille sur des pièces de théâtre qui dupliquent le réel. Et c'est un ancien journaliste. Donc il conçoit ces pièces de théâtre comme une image journalistique, exploitant le choc émotionnel de l'image d'allure brute, l'empathie, la décontextualisation, la non-contradiction de l'esthétique des preuves, etc. On retrouve ici deux traits constitutifs de l'œuvre tendue vers la propagande. Et là, je passe à l'analyse plus abstraite et morphocritique. D'une part, son hyper-réalisme. Alors, qualifiable, excusez le barbarisme, je ne peux pas parler de naturalisme, parce que ce n'est pas rendre justice au naturalisme expérimental de Zola, d'André Antoine, des soirées de Médan, etc. Donc, de naturalisationnisme, dans le sens où l'image revendique une parfaite adéquation avec le réel, participant ainsi à la naturalisation de certaines idées, voire idéologies, qui disparaissent derrière ce qu'en théâtre on appelle l'effet de réel, très vieille problématique. D'autre part, sa performativité, hyperréalisme donc d'un côté, d'autre part sa performativité, car l'image ainsi proposée, du fait de son équivalence supposée avec le réel, est destinée à se substituer à ce dernier. On retrouve le deuxième sens de pro, qui est non pas en avant pour, mais à la place de. De se destiner à se substituer à ce dernier. Le réalisme esthétique s'entend dès lors comme une tentative de reparamétrer le réel lui-même. Il recourt à une désublimation répressive, là on voit bien le côté répressif dans le « à la place de », elle-même produite par différents effets de réel. Ces effets de réel, je les ai analysés, ne sont bien sûr pas tous répressifs, rassurez-vous, amateurs sur scène ou comédiens déprofessionnalisés, ce qui est un peu différent, mais bon, c'est des comédiens qu'on embauche, mais pour qu'ils ne jouent pas et pour qu'ils témoignent en tant qu'eux. Alibi sociologique, par exemple, présence d'un expert dans la distribution du spectacle. Par exemple, dans le cas du spectacle sur les frères issus de cette association frériste, il s'agissait d'une doctorante qui, en fait, elle-même très proche des réseaux fréristes. Photographie de terrain, esthétique scientifique de la reconstitution, de la preuve et de l'archive, etc. L'autorité du réel permet de faire le lien avec l'utilisation de la représentation artistique dans certaines dérives sectaires. Et je vais vous citer l'exemple de l'anthroposophie. J'ai étudié l'utilisation des arts dans les écoles Steiner-Waldorf. Et je vais bientôt faire... il y a un congrès sur théâtre et idéologie sectaire à Paris au mois de juin. Je vais faire une intervention là-dessus. Je vous en dis quelques mots. Lorsque une rapide observation, par exemple, des dessins effectués par les enfants dans les écoles Steiner montre une extraordinaire répétitivité des formes dessinées. Et cela depuis la fondation de la doctrine par Rudolf Steiner. C'est-à-dire que les dessins du début du siècle, hein, ça vous pouvez le vérifier sur Internet, hein, sont à peu près les mêmes que ceux des écoliers du XXIe siècle. Cette répétitivité, qui me semble un trait morphocritique très important, s'enracine dans l'idée, dans la doctrine anthroposophique, que l'art ne doit surtout pas déformer le réel, car cette déformation est perçue comme une forme de profanation. Les poupées Steiner, par exemple, doivent être proportionnées. On éloigne les enfants des figurines Playmobil, dont la tête est jugée trop grosse par rapport au corps, ce qui est moralement jugé comme mal. Une telle esthétique repose donc sur un idéal d'adéquation de la poésie et de la praxis, de l'image et du réel. Autre exemple, les enfants dessinent avec des craies parce qu'il faut flouter les contours des corps et des objets, toujours dans l'idée que la mimésis serait une dangereuse déformation. Les esthétiques hyper réalistes, j'ai récemment découvert un texte de Lyotard très intéressant sur la critique de ces esthétiques-là, présentent aussi l'avantage de faciliter la répétition, la propagation, voire la viralité, car elles sont, comme ces dessins, facilement reproductibles, étant donné qu'elles reposent sur une doctrine de la reproduction, fonctionnement qu'Éric Michaud, historien de l'art à l'EHESS, qualifie d'auto-mimétique. Soit je m'arrête là. Pour finir, je vais quand même voir. Je cite Orwell. Orwell, dans L'écrivain prolétarien, 1940, affirmait déjà « Tout artiste est un propagandiste. Je ne dis pas un propagandiste politique. S'il a quelque talent ou honnêteté, cela lui est impossible. La propagande politique est essentiellement l'art de mentir, non seulement sur les faits, mais aussi sur ses propres sentiments. » Mais tout artiste fait œuvre de propagandiste dans la mesure où il tente, directement ou indirectement, d'imposer une vision de la vie qui lui paraît désirable. George Orwell, en fait, très longuement écrit sur ce rapport entre art et propagande. C'est un lien qu'il considérait comme inévitable, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement axiologique à porter sur ce lien entre art et propagande. Constitutif de l'éthos artistique qui cherche à délivrer un message et à conformer au moins partiellement le monde à son désir, mais il n'adhérait pas, cependant, à la conception qui faisait florès de son temps de l'écrivain engagé. Donc, si l'on résume Orwell, il n'y a pas d'art sans propagande. Cet élément est irréductible, non éliminable, mais l'art n'est pas que propagande. Art et propagande restent dissociés, le contenu sur le plan de la qualité de l'œuvre d'art. Le contenu idéologique peut, il est possible que le contenu idéologique soit mauvais, mais que l'œuvre soit de qualité sur le plan artistique. Il n'y a pas de séparation absolue entre art et non-art. Et l'art reste quand même, nous dit Orwell, autonome. Il peut l'être par rapport à l'idéologie, mais cette autonomie ne dépend que, alors là c'est livré à notre... à nos méditations, il ne dépend que de ce que Orwell appelle la sincérité de l'auteur et son authenticité. Et c'est un critère, si j'essaye de le mettre en pratique, ce qui n'est pas évident, la sincérité, mais qui ne me semble pas présent dans les œuvres que j'ai mentionnées, celles qui mettent hors scène, parce que cette mise hors scène, précisément, me semble être le marqueur de cette non-sincérité, de cette non-authenticité. Voilà.